Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Geneviève Huglot, dans le rôle de Geneviève Huglot.
Et Patrick Trouillot, dans le rôle de Patrick Trouillot.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Auditeurs de Calade, bonjour. C'est la dernière émission de l'année radiophonique de Poker Menteur. Aujourd'hui, nous recevons des membres de l'association Kikuri. Mais tout de suite, la chronique géopolitique de Jean-François, Fenêtre sur le monde. C'est parti.
Fenêtre sur le monde, la chronique géopolitique de Poker Menteur.
Salut Jean-François, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Salut, eh ben, j'ai pas cherché très loin mon sujet, puisque l'actualité m'a quand même donné le sujet de. M'a servi le sujet de ma chronique sur un plateau, puisqu'on va parler de la Russie et de la tentative de coup d'État d'Evgeny Prigojine.
Le fameux groupe Wagner.
Voilà.
Explique-nous.
Eh ben, durant cette tentative de coup d'État, Vladimir Poutine a dû faire face finalement à la plus importante rébellion depuis son accession au pouvoir en Russie, il y a de cela 23 ans. Je ne vais pas revenir sur le déroulé des événements, qui est plutôt bien connu, mais plutôt chercher à soulever les causes profondes de cette journée si particulière et en faire une analyse géopolitique.
Alors on va commencer par les aspects plus récents, l'histoire plus ou moins récente, hein, d'accord, et notamment le fait que dans les forces militaires russes, il y a des groupes rivaux en quelque sorte.
Oui, exactement. En arrivant au pouvoir, Vladimir Poutine il s'est servi d'abord du contexte de la Seconde Guerre de Tchétchénie pour mettre en place un processus de contrôle présidentielle sur les structures de force. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les structures de force ? C'est les forces armées, les forces de police et les services de renseignement. Il en a d'ailleurs fait sa base politique. Il a ainsi encouragé la création, parallèlement aux forces armées nationales, de différents groupes rivaux, dont la milice Wagner. Le but était de permettre à l'État russe de mener des actions à l'étranger sans en endosser forcément la responsabilité. Et surtout de permettre au chef du Kremlin de rester fermement à la tête d'un appareil militaire hétéroclite et en concurrence pour servir au mieux ses propres intérêts. Alors, les milices Wagner forment l'exemple le plus emblématique de ces groupes armés, mais ce n'était pas le seul. Prigojine, c'est celui qui a quand même le mieux réussi, mais il y a d'autres milices comme celle de Kadyrov, le Tchétchène, qui d'ailleurs a apporté son soutien immédiat à Poutine le 24 juin.
Et il semblerait que ça ne soit pas en fait quelque chose de récent dans l'histoire russe, ces histoires de milices.
Ouais, c'est effectivement pour monter même à l'époque tsariste, pour en parler, où le pouvoir central russe s'appuyait déjà sur des troupes de mercenaires pour repousser les frontières dans le but d'assurer la sécurité du cœur de la Russie.
C'est toute la tradition des mercenaires en quelque sorte.
Voilà. D'accord. D'ailleurs, Catherine II, en son temps déjà à la fin du XVIIIe siècle, elle avait dû gérer la révolte d'un homme qu'on appelle Pougatchev, un chef cosaque qui s'était retourné contre son autorité.
Bah, c'est le danger.
Voilà. Et finalement, là, on a assisté à une répétition de l'histoire avec Prigojine, qui a mené une chevauchée avec ses mercenaires prétendant incarner l'ordre et la discipline. Bon, pour autant, on sait bien que ces mercenaires sont des criminels. Il l'a bien fait en portant un discours politique avant de se lancer. Il a ainsi diffusé des vidéos invalidant tout le discours du Kremlin sur les raisons de l'invasion de l'Ukraine, déclarant qu'elle n'était pas liée à une menace extérieure, mais à l'avidité du haut commandement militaire.
Ouais, il a mis en place un storytelling, je dirais.
Exactement.
Alors, c'est quoi les particularités de cette milice Wagner proprement dit ?
Alors, dans cette tradition russe de faire appel à différents types de forces, Prigojine présente des caractéristiques qui lui sont quand même propres et assez exceptionnelles, il faut le dire. Il ne dirige pas seulement une société classique de mercenaires, mais aussi une force active dans le cyber, dans la désinformation et l'action à l'étranger. Il bénéficie ainsi de sa propre propagande qu'il a de plus en plus politisée avec la guerre en Ukraine. En outre, très présent au Moyen-Orient et en Afrique, il est parvenu à conclure des accords qui lui permettent d'exploiter de nombreuses ressources, comme des hydrocarbures par exemple, ou même des mines de diamants au Mali, qui lui assurent une autonomie bien plus forte que celle d'autres groupes au sein du système russe.
C'est impressionnant ça.
Son succès il peut aussi s'expliquer par sa proximité avec Vladimir Poutine qui lui quand même n'imaginait sans doute pas que Prigojine allait se retourner contre lui.
Donc on pourra dire qu'il a des moyens importants et quelque part il peut avoir des ambitions. Donc la question c'est quelle vision de la Russie il apporte Prigojine. On dit Prigojine ou Prigojine alors ?
On dit les deux.
On fait
ce qu'on veut. Il développe un discours quand même très très nationaliste, ultra nationaliste même, particulièrement inquiétant. Il est accusé de crimes de guerre pour ses différentes missions passées à l'étranger notamment. Ses miliciens se sont livrés à de nombreuses exactions et finalement cette journée du 24 juin a montré l'état de criminalisation avancée de la Fédération de Russie. Si l'alternative politique à Poutine, c'est Prigojine, cela témoigne quand même du degré de violence qui est aujourd'hui au cœur des élites russes.
Ouais, donc on constate donc à travers cette journée là de révolte entre guillemets qu'il y a des divisions au sein du pouvoir russe. Alors à quoi on peut s'attendre maintenant qu'il s'est calmé le petit gars là?
Ouais, bah on peut quand même s'attendre à une sorte de purge. Hein. C'est quand même la première fois depuis 2000 que quelqu'un défie ouvertement Poutine.
Ouais, carrément.
Alors les critiques par le passé, ils venaient plutôt de leaders politiques comme par exemple Boris Nemtsov qui était un ancien compagnon de route de Boris Eltsine, ou alors plutôt plus tard de l'opposant Alexei Navalny qu'on connaît bien. Qui est aujourd'hui en prison. Mais là, on a quelqu'un qui a des moyens militaires très importants et qui s'est directement opposé à deux hommes clés de la structure militaire de Poutine, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et le commandant de l'offensive en Ukraine, Valéry Gerasimov. Il y aura donc forcément des purges. Et d'ailleurs, elles ont déjà commencé avant le 24 juin. Hein,
d'accord ? Ouais.
Vous avez sans doute déjà lu dans les journaux ou vu sur Internet des disparitions, des accidents, des chutes assez suspectes quand même. Et quand Poutine il utilise le mot traître, comme il l'a fait dans son discours du 24 juin, discours à la Nation, cela signifie qu'il y aura forcément châtiment.
C'est le mot clé. Ça veut dire là, t'es mal. S'il y a une traître sur ton dos, t'es mal.
Et d'ailleurs, le New York Times a publié... dans ce week-end, là, récemment, il croit savoir que Poutine cherche à la tête de Prigojine, malgré le fait qu'il ait promis de le laisser tranquille.
D'accord, ok. Bon, malgré tout, Poutine sort quand même fragilisé, je présume, de cette affaire.
Ouais, totalement, son pouvoir est déstabilisé. Là. Et il le dit d'ailleurs lui-même dans son discours du 24 juin, d'ailleurs. Il fait référence à 1917 et au coup de poignard dans le dos.
De la Révolution russe.
De la Révolution russe, voilà. Reçu par le tsar Nicolas II. Et même si Prigojine a été stoppé, cette journée relève les divisions donc au sommet de l'État et interroge aujourd'hui sur la capacité à gouverner de Poutine, qui est désormais à une guerre à mener en Ukraine, mais aussi une guerre à mener sur le front intérieur.
Guerre pour sa survie politique.
Hein. Et cette guerre a aussi révélé quand même un manque de confiance populaire envers la politique du régime.
Ouais, bien sûr.
Parce que pendant la tentative de rébellion, il y avait pas mal de blagues qui pouvaient circuler, notamment celle-ci que je vous partage, qui disait que l'armée russe était la deuxième au monde en 2021, la deuxième en Ukraine en 2022 et la deuxième aujourd'hui en Russie en 2023.
D'accord, humour russe.
Et plus sérieusement, les témoignages disponibles montrent que les forces de Wagner ont été accueillies très favorablement par une partie de la population à Rostov.
C'était ça le danger, si elle avait perduré. C'était l'accueil de la population, le soutien. Donc... quelles peuvent être donc les conséquences de ces dissensions qui sont apparues au sommet du Kremlin conséquences sur la guerre en Ukraine, sur la contre-offensive de Kiev notamment, qui se tramait au même moment.
Et puis désormais, on peut voir que justement, l'offensive ukrainienne montre que l'initiative est du côté ukrainien, que les Russes ne sont plus que sur une position défensive. Ils ne sont plus capables, en fait, tout simplement, d'avoir l'initiative aujourd'hui. Alors, la question de savoir ce que va advenir des troupes de Wagner. Est-ce qu'ils vont accepter de rejoindre les rangs de l'armée russe ou demeurer fidèles à Prigojine? C'est une question qui reste en suspens et auquel je n'ai pas de réponse.
Et au niveau international, son image, elle est un peu écornée, je présume. Est-ce qu'il va être encore crédible?
De moins en moins, quand même. Hein. Et il apparaît comme un partenaire acculé sur son propre territoire, ce qui n'est jamais très bon. C'est interprété comme
Poutine.
Un signe de faiblesse, Poutine, ouais. Déjà, la Chine le sent très faible. Il a quand même eu le soutien d'Erdogan, qui peut se voir comme un pendant du soutien que Poutine avait accordé à Erdogan lorsque celui-ci avait été victime d'un coup d'État en 2016. Mais il y a un certain nombre de pays qui étaient des pays satellites de la Russie qui se sont quand même montrés peu solidaires, comme le Kazakhstan, qui a été sollicité, mais qui a laissé Poutine se débrouiller, et disant qu'il s'agissait d'une affaire intérieure et qu'il n'avait pas le
ça, c'est pas bon signe pour lui.
Tout à fait.
Ouais. Alors, les conséquences, est-ce qu'il risque pas d'y avoir, paradoxalement, des formes de surenchère militaire pour rétablir l'image écornée du chef
C'est le risque, effectivement. Hein. D'ailleurs, maintenant, la rhétorique nucléaire a été à nouveau utilisée ces derniers jours. Et donc, paradoxalement, l'affaiblissement de Poutine le rend plus dangereux et plus imprévisible.
Ok, merci Jean-François. C'était Fenêtre sur le Monde.
Poker menteur.
Galade.
Nous recevons donc pour cette émission, cette dernière émission du mois de juillet de l'année radiophonique 2022-2023, des représentants de l'association Kikuri. Kikuri, qu'est-ce que c'est? Nous allons le savoir, mais d'abord nous allons saluer les représentants. Valérie, bonjour.
Bonjour.
Bob, bonjour.
Bonjour.
Et Alain.
Bonjour.
Alors, qui c'est qui s'y colle un petit peu pour nous présenter rapidement, je dirais de façon synthétique et rapide, ce qu'est l'association Kikuri ? Alors là, on se regarde, petit duel de regards, qui va se lancer ? C'est Alain qui craque et qui va se lancer.
L'association Kikuri, déjà définir rapidement qu'est-ce que c'est, pourquoi Kikuri ? Alors Kikuri, c'est le nom à la fois d'un mot qui se trouve sur la commune de Sarcey, mais également c'est un corridor écologique qui traverse deux bassins versants, c'est-à-dire le bassin versant du Val de Turdine, mm-hmm. et qui va jusqu'au bassin versant du Soinan, donc plutôt vers les Pontarais.
Qu'est-ce c'est quoi un corridor écologique ?
Alors un corridor écologique, c'est vraiment une grosse portion ouais. de terre ouais. qui est à la fois composée d'arbres et puis de terres vivrières.
D'accord.
Et qui, à l'intérieur de ce corridor écologique, qui accueille énormément de biodiversité.
D'accord.
Et donc qui est vraiment,
D'accord.
l'actualité nous le montre, à préserver absolument.
D'accord, voilà. Très bien.
Donc Kikuri est né donc en 2019, mm-hmm. en mai 2019. C'est en fait le regroupement de plusieurs militants, de diverses associations mm-hmm. qui avaient la préoccupation de la préservation et de la préoccupation de l'intérêt général.
D'accord.
Que ce soit en matière de santé, en matière de terres agricoles, de, mm-hmm. de tout ce qui touche l'agriculture, et on y viendra au travers de l'agriculture, il y a bien entendu l'alimentation.
Hein, oui, bien sûr.
Et donc, on a donc décidé de se regrouper au sein de ces diverses associations pour véritablement créer un rapport de force, parce que, ça ne vous échappera pas, qu'en 2018, on a ouais. eu l'arrivée de l'autoroute.
Oui, d'accord.
A89. Enfin, elle a commencé en 2012.
D'accord.
Mais l'arrivée de l'autoroute a créé véritablement un boulevard pour l'économie industrielle. Mmh. Et il mmh. Y avait des ambitions
ouais.
de pouvoir effectivement installer des gros bâtiments logistiques.
Déjà, là, on voit poindre la logique classique, donc l'autoroute qui relie, qui vivifie un secteur industriel, mais qui développe donc de l'activité économique industrielle notamment. Et ce qui n'était jamais pensé avant, c'est-à-dire, oui, mais les conséquences. Voilà.
Voilà,
et donc, le contre-pouvoir qui émerge, qui curie, c'est de dire « Oh, oh, réveillez-vous là, on n'est voilà. plus en 80, il y a des conséquences. »
Voilà, donc le réveil a été, on va dire, brutal, puisqu'on a vu
pour les élus.
Émerger le bâtiment de l'entreprise.
Alors, d'abord pour les habitants, oui, oui, puis ensuite et, pour les élus.
Alors, pour les habitants, ça a été très brutal, mais on est dans un territoire où effectivement tous les projets sont saucissonnés, mm-hmm. c'est-à-dire que
un projet
qui se trouve mm-hmm. dans un village mm-hmm. ne va pas forcément concerner ou intéresser les autres habitants du...
Voilà,
du
donc la prise de conscience ne peut pas être globale.
Voilà, la prise de conscience n'est pas globale, mm-hmm. et nous, c'est vraiment notre préoccupation d'avoir une vision globale.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de village, on parle de territoire, et le territoire du Val de Turdine, c'est un territoire qui mm-hmm. part des sources de la Turdine, c'est-à-dire de Joux,
ouais.
Les monts de Tarare, et qui descend jusqu'à l'Arbrel.
D'accord, donc des monts de Tarare jusqu'à l'Arbrel. Très bien.
Oui, un petit mot.
Bob.
C'est le nom de notre association, c'est
ouais.
Kikuri, prenons soin de notre territoire.
D'accord, ok.
C'est pas seulement Kikuri.
Kikuri, prenons soin de notre territoire.
Kikuri, prenons soin
d'accord.
de notre territoire.
Très bien, merci de cette précision, Bob. On va écouter, on va faire une première pause musicale, puis après on va rentrer dans des approches plus thématiques, hein, on discutera de diverses thématiques. Qu'est-ce qui nous est proposé pour la première pause musicale ? Bougez pas, je regarde mon petit conducteur, c'est Fauchatterton, c'est ça Valérie ?
Oui.
Et c'est quoi le titre du morceau ?
Un monde nouveau.
C'est parti.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule et dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprites. C'était à n'y comprendre rien,
Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Pokermenteur.
Pokermenteur.
Calade.
Vous écoutez Pokermenteur sur Calade, l'émission du mois de juillet. Nous sommes en compagnie de Valérie, Bob et Alain de l'association. Alors, j'ai plus le total. Vas-y, Bob, dis-nous l'association. Le nom complet, c'est
Prenons soin, Kikuri, prenons soin de notre territoire.
Trop fort, merci Bob. Nous venons d'écouter Fauché à Tartonne, nous lui avons coupé la chic en plein milieu, tant pis, il apprendra que c'est dur parfois la vie. Valérie, non, pourquoi Valérie? Je ne sais pas, non, ce n'est pas Valérie du tout. Nous allons commencer à discuter un petit peu en détail, c'est avec Bob, on va commencer avec Bob. D'une première thématique qui est évidente dans votre action, c'est la préservation des terres agricoles.
Oui. Pourquoi préserver des terres agricoles? Eh bien, pour préserver nos capacités de nourriture.
Ouais.
On s'aperçoit, rien qu'en France, que l'augmentation de la population va beaucoup moins vite que l'augmentation du taux d'artificialisation des sols, de la surface agricole utile.
D'accord. L'artificialisation des sols mange, je dirais, l'espace nécessaire pour l'augmentation, pour fournir à manger à la population en augmentation. C'est un peu ça, j'ai compris?
Oui, oui.
Valérie.
Oui. C'était un petit peu l'inverse. Hein? En fait, l'augmentation de la population va beaucoup plus vite.
Oui, c'est ça, voilà.
Et non, c'est le taux d'artificialisation des sols qui va beaucoup plus vite.
C'est ça.
On a moins de terres.
Oui, ouais, tout
nourrir.
À fait. Et ça, on n'a pas conscience, en fait, hein, franchement.
Si on prend. Alors, on est au voisinage de la métropole. Si on prend la totalité des SCOT qui fait l'inter-SCOT, l'inter-SCOT. C'est quoi?
Oui, c'est quoi SCOT?
C'est le schéma de cohérence territoriale.
D'accord.
Eh bien, autour de la métropole, qui regroupe la région de Rouen, Saint-Étienne, Vienne, ouais. etc., il y a 750 000 hectares de surface. Il faudrait 750 000 hectares de surface agricole utile pour nourrir la population, et on n'en a que 500 000.
Ah ouais, d'accord. Et là, donc, tu raisonnes au niveau de la métropole du Grand Lyon, on va dire.
Beaucoup plus large. Hein,
même plus large que le... Oui, je dis le très Grand Lyon, on va dire.
Dedans,
voilà, etc. OK. Donc déjà, on constate qu'il y a un déficit.
On a un gros déficit, et donc il faut importer de la nourriture. Et c'est pour ça que... Et les lois nous disent qu'il faut relocaliser l'alimentation.
Oui, 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 oui. Les grandes tendances, c'est aller vers de la relocalisation. Mais bah, c'est bien, on part donc, d'un point de départ. OK, il manque 200 000 hectares.
Localement, dans notre bassin versant de la Turdine, on veut garder une certaine capacité. On ne peut pas dire qu'on pourra nourrir absolument toute la population, mais on veut garder un maximum. Voilà. De capacité pour nourrir cette population et aussi pour conserver une certaine biodiversité.
Parce que, deuxième aspect.
Ouais, plus on supprime des terres agricoles et des terres naturelles, plus la diversité est atteinte.
Tout à fait. Valérie, tu veux prendre la suite ou si tu veux, il y a un thème qui est derrière, c'est bah, la notion d'artificialisation des sols, hein, qui est derrière toute cette discussion qu'on est en train de commencer à développer. On a pris conscience, enfin, grâce aux scientifiques, de, la... ben, de ces aspects-là. Hein, c'est qu'on atteint des limites d'artificialisation qui vont poser des problèmes alors, au niveau de la biodiversité, au niveau de l'alimentation. Mais prendre conscience, c'est une chose. Après, que ça rentre dans les cerveaux des politiques qui gèrent la chose publique et que ça se traduise par des décisions, ben, y a un long chemin, en quelque sorte. Dans ce long chemin, il y a une loi, la loi de 2021, qui a été édictée, qui a un peu travaillé là-dessus, qui a donné quelques objectifs. Hein. Non, loi. Comment s'appelle-t-elle? Bougez pas, je vais la retrouver. Loi climat et résilience de 2021. Et elle a dit, il faut arriver à la. Alors ils sont pas trop ambitieux, on va dire, à zéro artificialisation nette en 2050. Voilà.
Zéro artificialisation.
Ouais, c'est la loi ZAN.
Ouais.
ZAN, voilà, c'est
mais
ça.
Mais on y revient maintenant. Actuellement, c'est en discussion. Au Sénat, à l'Assemblée, parce que sous la pression des élus, justement, qui voudraient garder cette capacité d'extension. Donc, c'est en discussion. Mais oui, il y a une loi, là.
Ouais. Sauf que localement... Oui, vas-y.
Sachant Valérie. Qu'elle était présentée aussi de façon... enfin, avec une certaine progression... Pour que les élus puissent la tenir.
Oui.
Et que là, je pense que chaque habitant le voit bien dans sa commune, où il y a vraiment une précipitation sur l'artificialisation, parce que les territoires vont garder quand même une capacité d'artificialiser encore 10% de ce qu'ils ont artificialisé avant telle année, etc.
D'accord.
Donc là, en fait, c'est des projets... projet à tout va, quoi.
C'est l'idée, dépêchons-nous tant qu'on le peut encore.
Tant qu'on le peut encore, et puis du coup, on se crée aussi des mètres carrés de référence pour la suite.
D'accord.
Puisqu'on aura quand même
possibilité
d'artificialiser.
Si on a artificialisé, comme ça, on a de la base pour pouvoir travailler dessus. Donc même si on n'a pas un projet réel, concret, on artificialise pour pouvoir garder ça pour plus tard.
Ouais.
Donc en fait, c'est les effets pervers habituels hein, des bonnes intentions, en quelque sorte.
C'est les effets pervers. Et puis je pense que vis-à-vis de la zone qui nous intéresse plus particulièrement à Kikuri, on a aussi ce... Bref, l'autoroute s'est installée. L'autoroute, elle était vraiment conçue sur des projets, effectivement, qui dataient des années 80, où on avait encore une confiance absolue sur le transport routier, sur le fait que pour développer des zones de population, des zones économiques, on était encore sur des vieux schémas.
Ouais, totalement.
Et là-dessus sont arrivés des impératifs climatiques écologiques qui, pour les élus, sont difficiles à gérer parce que... On a entamé un processus de changement pour la zone qui correspond à des projets des années 80. Et là, en fait, tout est remis en cause.
Ouais.
C'est compliqué de se débarrasser de ces anciens schémas de développement économique.
Tout à fait.
On comprend tout à fait à Kikuri. Hein. On sait très bien que, c'est compliqué pour des élus de se dire « bah ouais, mais maintenant on fait quoi? On a l'autoroute, on en fait quoi ?»
C'est la difficulté, il faut qu'ils intègrent chacun de ces élus dans leur vision du monde, dans leur compréhension du monde, ces nouvelles problématiques. Et ça, souvent, c'est pas évident parce que, un, ils sont pas au courant, deux, ils sont pas motivés, trois, ça va à l'encontre de leur vision, donc franchement, ils freinent des cas de fer. C'est humain, quoi, on va dire. Et donc, voilà, vous vous retrouvez confronté à ça. À la limite, je dirais, il faut aussi, à terme, qu'une génération nouvelle arrive, plus consciente, elle arrive. Hein. On la voit un peu partout, mais ils ne sont pas encore au pouvoir. Le pouvoir, il est encore tenu par les vieux de la vieille. Enfin, je présume, hein, je dis ça.
Alors, ce n'est pas forcément utile, je dirais, d'arriver au pouvoir pour effectivement faire changer les choses.
Pouvoir au niveau local, je parle.
Oui, au niveau local. Et je pense que le poids des associations, justement,
le contrepoids,
des collectives, le contrepoids qui émerge depuis quelques années, je parle au niveau national, mais également au niveau local, montre qu'effectivement, on arrive à faire bouger les lignes.
Ouais. De toute façon, on ne peut pas attendre. Hein. Je dis qu'il faut que les nouvelles générations arrivent, mais on ne peut pas attendre. Non, c'est urgent. Il faut le faire maintenant, d'où le contrepoids nécessaire.
On aide les élus qui
à apporter les compétences, les connaissances qu'ils n'ont pas.
Ils sont bloqués pas seulement
de
leur propre volonté.
Bien sûr,
ils sont
bien
bloqués
sûr.
De tout un tas de systèmes.
Tout à fait. Ok, très bien. On va faire une deuxième pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute cette fois-ci? C'est bien sûr les membres de l'association qui ont choisi. Alors Alain, qu'est-ce qu'on écoute?
On va écouter Jean Ferrat, Fredo la nature.
Ah, merci donc, Alain. Retour à Jean Ferrat, ça c'est bon ça. C'est parti.
En poussant comme un pauvre gosse sur un tas de cailloux, on a des idées précoces, et comme les voyous, tu passais devant l'école, la fleur à la main. D'Attila, moi je m'en colle, je reviendrai demain. Mais il y a eu des demains, à n'en plus finir, tu fréquentas les chemins où fleurit le plaisir. À 16 ans tu cueilles une rose, déjà bien fanée. Tu apprends toutes les choses de l'amour damné. Dis-moi, Fredo, la nature, qu'as-tu fait de ta vie? C'est l'heure de payer la facture, on fait plus crédit. De l'amour, ton seul domaine, tu devins l'expert. Mais tu n'avais qu'une rengaine, je veux mettre au vert. Jardinier pendant que ces dames, en toute saison, arpentaient le macadam, tu coupais le gazon. Mais il a fallu qu'un pote, sans ta permission, vienne un jour fourrer ses bottes dans tes plantations. D'un coup de sécateur rapide, tu lui as coupé un petit morceau de carotide, c'était régulier. Mais, dis-moi, Fredo, la nature, qu'as-tu fait de ta vie? C'est l'heure de payer la facture, on fait plus crédit. Assez joué mon petit bonhomme, réglons l'addition. Un coup de parabellum, voilà ta ration. T'auras droit à toute la clique des cérémonies, des couronnes et de la musique et tous les amis. En écoutant l'harmonium, penseront souvent à toi sous les géraniums, tu les aimais tant. Tu nous quittes sans manière, et ces dames en pleurs feront graver sur la pierre, au milieu des fleurs. Fredo aimait la nature, le voilà servi, couché parmi la verdure. Il finit sa vie.
Poker menteur.
Galade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade. Notre émission se fait en compagnie des membres de l'association. Je m'excuse, Bob, je vais le dire en version plus courte, Kikuri. Et donc, nous venons d'écouter Jean Ferrat. Merci Alain pour ton choix très judicieux, Fredo la nature. Je voulais revenir sur un point là sur lequel on est passé rapidement, c'est-à-dire qui sont les membres de votre association, et notamment il y a des agriculteurs dans votre association. Alain.
Oui, tout à fait. Je pense que ce qui fait la spécificité du collectif Kikuri, c'est qu'elle est composée essentiellement à la fois de citoyens du territoire, mais également d'agriculteurs.
Ouais,
et je pense qu'on a bien conscience que de toute façon, les uns ne pourront pas travailler sans les autres.
Bien sûr.
Et on a besoin vraiment de partager nos connaissances, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas agriculteurs, mais on a été quand même baignés pendant plus de 60 ans, depuis l'après-guerre, avec cette division où d'un côté, les agriculteurs avaient la charge de nourrir la population. Mmh. Et puis, d'un autre côté, les citoyens n'étaient pas forcément enclins à parler de tout ce qu'il peut y avoir dans la richesse des sols,
dans
tout ce qu'on pouvait amener au niveau de l'alimentation. Donc, on allait faire nos courses sans trop se poser la question. Aujourd'hui, les rôles sont vraiment inversés et de plus en plus par rapport à tout ce qui se passe au niveau sanitaire. Il y a vraiment une préoccupation de savoir ce qu'on mange et ce qu'il y a dans nos assiettes. Et donc, c'est pour cette raison que le partage qu'on fait avec les agriculteurs nous permet effectivement d'être à la fois crédibles auprès de la population, mais également auprès du pouvoir public, dire que réellement, le problème alimentaire, c'est un problème global, c'est pas spécifique aux citoyens ou aux agriculteurs.
Et ainsi, vous ne répondez pas au petit jeu binaire des soi-disant militants écolos déconnectés du réel face aux agriculteurs qui, eux, défendent la réalité. Vous avez intégré tout ça dans une vision beaucoup plus construite, concrète et compétente, je dirais.
Voilà, c'est vraiment de la politique. C'est pas de la politique politicienne, de la politique au sens noble du terme.
Effectivement,
chacun est dans son rôle, mais il y a un partage de connaissances qui doit nous amener aujourd'hui à réfléchir sur la préservation des terres, bien entendu.
Mais réfléchir ensemble, ça c'est bien, c'est fort ça. Ok, on va passer à un autre sujet. Vous avez une commission dans votre association qui s'occupe de toute la question juridique et c'est une question hyper importante et hyper complexe. Qui est-ce qui est membre de la commission juridique? C'est Bob. Tous les regards se tournent vers Bob. Exprime-toi, Bob. Explique-nous qu'est-ce qu'elle fait, cette commission juridique.
Eh bien, il faut savoir que lorsqu'on voit apparaître un bâtiment logistique, on peut dire qu'il est pratiquement trop tard.
Oui, bien sûr.
Auparavant, il a fallu faire une modification du plan local d'urbanisme.
Le fameux PLU.
Pour modifier le statut d'une terre qui était au départ agricole ou naturelle et qu'il faut transformer en constructible, etc. Donc, pour nous, ça nous impose une veille continue de tous les PLU qui sont en cours. Et je dois dire que c'est très difficile.
Mais rien que ça, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que
chercher l'info.
Il faut regarder dans les mairies les tableaux d'affichage, qu'est-ce qui se passe, et ci ou là. Et voilà. Et intervenir après sur ces PLU par des vérifier d'abord qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce qu'il y a des modifications de terres agricoles ou pas, dans quelle quantité, et intervenir si nécessaire. Et pour intervenir, ça nous demande des compétences qu'on n'avait pas il y a 3 ans ou 4 ans, que nous avons acquises, je ne parle pas à mon nom propre.
Collectivement,
nous avons des gens qui sont devenus des vrais spécialistes et qui peuvent dire « Ah, attention, là, c'est une zone inondable, ça dépasse de 40 cm d'eau, donc ça ne va pas pouvoir être constructible, ou etc. Par exemple. Ou on s'appuie aussi sur cette notion de corridor écologique, sur lequel je reviens. Un corridor écologique, c'est ce qui permet le passage aussi des animaux. Lorsque, entre deux zones, une forêt, une autre forêt, une colline et une autre colline, tu parlais de la vallée du Souesnant et peut-être d'autres zones intéressantes, il faut dire que l'autoroute a coupé corridors.
Ouais.
L'autoroute, la Nationale 7, la voie ferrée, plus d'autres petites départementales, tout ça, ça fait des coupures.
Et oui, ça a des effets des très durs sur la diversité, la biodiversité.
Voilà. Bon. Donc, il y a des lois aussi. et en particulier le schéma régional de cohérence écologique au niveau des corridors écologiques, qui dit que dans notre vallée, les corridors écologiques sont à remettre en bon état.
Oui, bien sûr.
Et c'est justement là-dessus qu'on va construire on proposait de construire des entrepôts logistiques. Sur laquelle on est intervenu.
Oui, donc la remise en état n'était pas évidente avec des entrepôts logistiques au milieu.
Voilà, donc on a eu des actions et disons qu'entrepôts logistiques et des centres commerciaux.
Oui.
Et nos actions ont payé puisqu'on a réussi à empêcher ces constructions.
Bravo, bravo.
Oui, parce qu'il faut dire qu'au départ, on a découvert qu'un projet de 170 hectares était promu à l'artificialisation à l'installation d'entrepôts.
Le terme découvert, il est intéressant. Hein. C'est vraiment des choses, il faut aller chercher l'info. Oui, elle est dite nulle part, hein, sauf si on fouine. Quoi.
En fait, ils ne vont pas dire qu'elle est dite nulle part, parce que
non, bien sûr, légalement,
ils respectent les textes. C'est-à-dire qu'ils affichent dans les mairies, ils proposent aux gens d'aller sur Internet pour s'avaler 600 pages de projets de bâtiments.
Pour aller comprendre qu'il y a 170 hectares projetés.
Je pense qu'il y a véritablement peut-être une réflexion à avoir sur l'information qu'on a donnée. Alors, ils feront effectivement des réunions d'information, affichées la veille à la mairie pour dire que le lendemain, il y a une réunion d'information. Donc tout ça, effectivement, ça noie les gens. Et puis, en plus de ça, il faut bien dire une chose, c'est que les gens... font confiance aux élus,
bien sûr.
Aux politiques, bien sûr. Dire finalement, mais on s'aperçoit que entre ce qu'ils disent pour se faire élire et puis ce qui se passe après, il y a un véritable fossé.
Ouais.
Les gens, quelque part, ils se disent on a été bernés. Donc la conclusion, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va plus voter.
Ça, c'est
véritablement. Je pense qu'il faut replacer les citoyens que nous sommes dans un véritable discours, dialogue et concertation.
Voilà, ouais. Et derrière, il y a toute la problématique de la démocratie représentative où justement, voilà, tant est j'ai voté et en gros, carte blanche pour faire ce que je veux, y compris pas du tout ce que j'ai dit.
Que maintenant,
et
c'est
donc, le retour d'associations qui apportent des contre-pouvoirs et puis derrière aussi l'idée de la démocratie participative, c'est un peu des réponses possibles et nécessaires face à ces dérives-là, hein, dont les conséquences, tu l'as dit, sont que les gens ne vont plus voter.
Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on travaille avec des textes.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, le juridique, on se réfère à des articles de loi, ce soit des articles nationaux ou bien même des articles de loi européenne qui vont à l'encontre de ce qui est prévu.
Et
donc
oui,
on fait simplement que rappeler le droit.
Rappeler la loi.
Voilà, rappeler la loi.
Aux élus qui choisissent de laisser ça de côté et de continuer leur petit bonhomme de chemin comme avant.
Ils ne la laissent pas de côté, il faut être...
Ils font en sorte...
Il y a des cabinets qui leur proposent, etc.
Et on revient à la question des compétences aussi, alors. Pas que des compétences, on voit en matière d'écologie, mais des compétences juridiques des élus locaux, des fois qui n'ont pas les connaissances de tous ces textes de loi qui sont complexes quand même.
Oui, des compétences juridiques et puis, encore une fois, du saucissonnage des projets.
Eh oui, aussi.
On s'aperçoit aussi sur le territoire que c'est compliqué pour le maire d'une petite commune rurale.
Ouais.
S'il n'est pas au courant des autres modifications de PLU qui ont lieu aussi à côté, ou qui sont demandées à côté, c'est compliqué d'avoir une vision globale de l'impact que va avoir sa décision à lui.
Ouais, totalement, totalement. Lui, il est aussi face à ce que Alain décrivait, c'est-à-dire au fait que l'info, elle n'est pas sous les yeux, il faut aller la chercher, mais il n'a pas que ça à foutre, le maire. Il a d'autres choses à faire, donc il y a plein de choses qu'il doit rater, d'où ce saucissonnage, manque d'informations. Ok, très bien, on va faire une troisième pause musicale. C'est qui? Ce ne serait pas Valérie qui a choisi la troisième...
Bjork.
Bjork qui nous chante
Human Behavior.
Oh, quel bel accent, bravo. C'est parti.
Human
menteur.
Poker menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade. Notre émission du mois de juillet est consacrée au travail exemplaire que fait l'association Kikuri sur son territoire. Nous venons d'écouter Björk. Merci Valérie qui nous avait proposé Björk, Human Behavior. Pour terminer sur le, ce qu'on a dit ensemble sur le, la commission juridique et sur le travail, il y a eu donc le 15 juin de cette année, donc très récemment, le tribunal judiciaire de Lyon qui a enregistré votre plainte à l'encontre de la société Vinci. Pour les motifs suivants, en gros, pour résumer, c'est quoi les motifs de cette plainte, hein, Alain ? C'est quoi les motifs de cette plainte ?
Ben, en fait, quand il y a eu la construction de cette autoroute, donc Vinci avait la concession et était chargé de, au travers du, de la construction, de, d'installer une usine de comment on appelle ça ? C'est une usine de fabrication de, du béton. Mmh. Et puis également d'entreposer tous les déchets quand ils creusaient, creusaient cette autoroute. Et d'accord. Ils avaient également l'obligation de remettre en état de terres agricoles à l'issue de l'autoroute. Mm-hmm. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est en 2023.
Ils n'ont pas respecté leurs obligations.
Alors, ils n'ont pas respecté leurs obligations et on se retrouve avec des zones qui sont des zones protégées, intouchables, et qui sont des zones, ce qu'on appelle des zones PNAP, c'est-à-dire elles sont naturelles et préservées pour l'agriculture. Et là, on se retrouve avec des monticules de des centaines de milliers de mètres cubes de déchets inertes qui, malheureusement, ne peuvent pas aller vers l'agriculture.
Très bien. Alors, pour cette troisième partie, on va explorer un point qui est très important avec Valérie. C'est l'idée de dire que une association locale comme ça qui va avoir une empreinte durable, elle doit pas être seulement dans l'opposition, elle doit offrir aussi une autre vision, des alternatives, et c'est un peu ce qu'on va explorer dans cette troisième partie. Valérie, on t'écoute.
Oui, effectivement, donc à Kikuri, d'emblée, dès le démarrage, il y a plusieurs commissions qui ont été créées. La commission juridique dont on vient de parler, une commission biodiversité qui vraiment en charge la surveillance de la faune et la flore sur place, et de l'eau aussi, des zones humides, et puis une commission communication, et enfin une commission alternative avec un S. L'idée, c'était vraiment de ne pas s'opposer comme ça de façon stérile à tout projet économique sur la zone, parce qu'on est bien conscient qu'effectivement, il faut développer une activité économique.
Tout à fait.
Mais c'était aussi de se dire, ok, on va penser un projet de développement, mais on va essayer de voir quelles sont les solutions à proposer aux élus ou en quoi on peut aider à imaginer une économie sur place qui serait davantage, entre guillemets, durable.
Bon, ça me fait penser à toutes les thématiques qu'il y avait pendant le confinement, les confinements en 2020, les réflexions autour du monde d'après. Hein, l'idée de dire il faudra que le monde d'après soit pas celui d'avant. Et un peu, c'est un peu ça, vous êtes un peu des porte-étendards, ce monde d'après, avec des propositions concrètes.
Oui, et là, on voit tout l'intérêt d'avoir au sein de Kikuri une grosse partie d'agriculteurs qui sont aussi source d'informations et de penser autrement sur la production agricole. Du coup, on est parti vraiment sur le fait d'essayer d'imaginer des projets ou en tout cas d'enquêter sur des projets qui étaient possibles d'implanter en lien avec l'alimentation locale, avec la relocalisation de l'alimentation.
Il y a vraiment une grosse thématique autour de... c'est le pivot central, la relocalisation, de votre réflexion sur les alternatives.
Oui, parce que pendant le confinement notamment, mais bon, on peut l'observer aussi de façon continue, on a bien vu que la métropole lyonnaise, qui est vraiment à nos portes, a vraiment, vraiment besoin d'alimentation.
Oui, bien sûr, c'est ce que Bob disait au tout début de l'émission.
On a une bonne partie des producteurs du coin, quand ils proposent, je ne sais pas, par exemple, du maraîchage, qui écoule tout ou en partie, une grosse partie de leur production, mais qui fuitent vers la métropole. Mmh. Et on disait, là, oui, effectivement, ça peut être porteur de sauvegarder ces terres-là, parce qu'il y a des débouchés, des marchés locaux, etc. Donc, en gros, la commission alternative, elle va s'occuper d'essayer d'aller voir à droite, à gauche, sur des territoires voisins, ce qui se fait en matière de transformation, ce qui se fait en matière de production, d'essais agricoles, pour avoir un peu des références sur ce qui pourrait être proposé.
Ça, c'est toujours intéressant et important, hein, voilà, se tenir au courant de ce qui existe, des pratiques, parce que ça ne sert à rien de vouloir réinventer la poudre dans son coin, on va perdre du temps.
Exactement. Alors, il y a un point particulier, hein, c'est que Kikuri n'est absolument pas propriétaire de terre.
Ouais.
Il y a une pression foncière qui, sur notre territoire, est très forte.
Ouais.
Donc, pour les habitants, on peut le vivre... Enfin voilà, chacun est au courant, mais pour les agriculteurs aussi.
Oui, bien sûr, ça ne concerne pas que les particuliers qui veulent acheter, construire une maison. Oui,
c'est compliqué. On a aussi des agriculteurs qui souhaitent soit avoir davantage de terrain, soit s'installer, sont porteurs de projets et qui ont vraiment du mal à s'installer.
Oui, parce que le foncier a un coût terrible, et donc déjà le point de départ en termes de capitaux, c'est hyper lourd.
Oui, c'est très lourd. Et là, la zone de Kikuri, enfin du Val de Turdine, c'est une zone qui est vraiment en plaine, qui serait très propice à du maraîchage, etc.
Ouais.
Après, voilà. Ça, c'est pas de notre... Nous, on n'est pas propriétaire des terres et on n'envisage pas de l'être. On ne peut pas prétendre à l'être. Par contre, préparer le terrain, avoir des références pour aider quand, au niveau politique, ce sera mûr, on croise les doigts, aider à installer des jeunes en projet, aider à installer des espaces tests. On a enquêté sur les conserveries, sur les cuisines centrales, sur les légumeries, comment ça s'installe, quelles autorisations il faut avoir, quelles sont les études de marché à faire, etc. En gros, on travaille sur voilà, un possible monde d'après, avec l'idée de dire, bah voilà, s'il y a une volonté politique... On peut aider aussi à passer le cap et à se dire, bah ouais, ça vaut le coup d'y aller, c'est faisable, quoi.
D'accord, très bien. Donc, de l'incitation, et puis il faut aussi, je pense, communiquer avec le personnel politique local, quoi, pour essayer justement de leur ouvrir l'esprit et de leur ouvrir à d'autres idées, d'autres visions sur l'avenir, sur le développement.
Ouais.
Ça se passe comment, les discussions avec les personnels locaux, les élus locaux politiques de terrain?
Ben, en fait, on profite de ce micro pour leur dire qu'on est prêt.
Voilà, vous êtes à leur disposition pour discuter.
Il nous manque juste effectivement cette volonté politique de prendre conscience de tout ça et de montrer qu'on est prêt à travailler. On est prêt à travailler avec eux pour relocaliser cette alimentation. Ce qui nous préoccupe véritablement, c'est la place de l'agriculture dans l'économie du territoire.
Ouais.
Autre que l'économie industrielle, il y a l'économie agricole qui pourrait effectivement répondre à des préoccupations, notamment alimentaires.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les élus qui sont responsables. Il y a également le comportement des citoyens.
Ouais.
Comme disait Valérie, le Covid a amené les gens à prendre conscience que finalement, comment ils allaient faire. Ils ne pouvaient pas aller dans les grandes surfaces, tout était bloqué. Kikuri a lancé très rapidement sur le site, a recensé pas loin de 50 agriculteurs sur le Val de Turdine qui étaient prêts à proposer la qualité de leurs produits.
D'accord.
Et on s'aperçoit qu'à la fin du Covid, en fait, les gens sont tous retournés en grande surface.
Ah ouais, c'est terrible ça.
Et ça, c'est quelque chose.
C'est terrible.
Ça prend du temps, mais on sait très bien que, à force d'informer sur la qualité des produits, les gens, notamment les nouvelles générations, puisqu'on travaille pour les nouvelles générations, les nouvelles générations sont sensibles à cette proximité. On voit très bien que sur Villefranche, notamment, vous avez des grosses associations qui travaillent dans ce sens-là, et ça marche très bien. Donc, on peut compter sur les élus, mais pas que. On peut également compter sur un travail collectif pour faire bouger les lignes.
Et il y a un aspect de communication qui est important aussi à travers cette idée. Ils sont tous revenus dans les grandes surfaces. Il faut trouver le moyen de communiquer avec eux, les citoyens, pour dire « Ah, t'es, perdez pas le fil, voilà ce qui existe ». Donc l'aspect de « Vous avez une commission, communication qui existe », et elle peut être importante aussi.
Alors,
à ce niveau-là.
Après, contre le lobby des grandes surfaces, on ne peut pas lutter, c'est clair.
C'est clair.
Je pense que même si on a une commission
en termes de communication, c'est sûr.
Je pense qu'il y a déjà des prises de conscience individuelles. C'est un travail de longue haleine.
Ouais,
on est
sûr,
dans une société où, de toute façon, ce qui s'est passé la veille, on oublie tout. Et donc, c'est vraiment un rappel permanent.
Ok, très bien. On fait une dernière pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute cette fois-ci? C'est toujours la surprise. Vas-y, Valérie.
Émilie Loiseau.
Émilie Loiseau.
Fleur de saison.
Merci.
Oh, je sens
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade, la dernière émission de la saison, donc émission de ce mois de juillet consacrée à l'association Kikuri. Nous avons écouté non pas Émilie Loiseau, mais Émilie Simon, c'était une petite blague en passant, voilà. Fleur de saison, voilà. On va, pour finir, parler d'actions concrètes que vous avez menées, dire où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que ça a donné, etc. Valérie ?
Oui, je voulais revenir un petit peu sur la partie dont on parlait Alain précédemment, pour dire qu'on était sur la communication, notre relation avec les élus, etc. Il faut quand même noter que maintenant, ça va mieux. On a des relations de proximité qui font qu'effectivement, on est sollicité par des mairies ou des élus pour participer. Bah, par exemple, là, on a deux réunions PLU cette semaine.
Donc vous existez déjà aux yeux d'un certain nombre d'élus locaux. Bah, c'est déjà un point hyper important.
Oui, et puis...
Et vous êtes perçu comme légitime.
Comme légitime, et puis bon, même au niveau des animations sur le territoire, on a la municipalité de Sarcey qui nous a intégrés à son programme d'animation pour les semaines de l'environnement. Mmh. Pour nous, c'est bien, c'est que ça avance et que du coup, on n'est pas dans un conflit.
Vous n'êtes pas dans une logique binaire de confrontation,
pas du tout,
etc. Oui, la condition.
Ils ont compris qu'on n'était pas des éco-terroristes.
Ah, exactement. Pas ces écolos qui tout de suite crispent le visage et le corps de ces pauvres élus locaux. Voilà, que vous êtes des gens avec qui on peut discuter et réfléchir sur l'avenir. Ok. Alors, c'était la thématique de cette dernière partie, être co-acteur en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur concrètement, tu as commencé à évoquer rapidement les diverses actions que vous avez menées.
Oui, on mène diverses actions sur le territoire, alors en lien avec la communication, l'information. On participe aussi à pas mal de réunions de réflexion sur le territoire pour, en ce qui concerne l'alimentation, la relocalisation de l'alimentation, etc.
D'accord.
Notamment avec le syndicat de l'Ouest lyonnais.
Okay.
Sur le plan alimentaire territorial du syndicat de l'Ouest lyonnais. On a participé aussi au projet de territoire de la CCPA, communauté de communes du Pays de l'Arbrel, et aussi on participe au syndicat de rivière Bréventurdine pour
D'accord.
le partage de l'eau, qui va devenir un sujet.
L'histoire de la rivière, là, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, là, ce projet autour de la rivière, là, de ce fameux syndicat dont j'ai vu le nom quelque part, mais je l'ai perdu.
CIRIPT.
Voilà, c'est ça.
C'est le cas de rivière Bréventurdine.
D'accord. C'est toute une réflexion autour du rôle des rivières, en quelque sorte.
Et du rôle de la rivière, et on arrive. Alors, au départ, c'était les inondations.
Ouais.
Il fallait se protéger des inondations. Uh-huh. Et puis, petit à petit, ça arrive au partage de l'eau.
Ouais, bien sûr.
Et le problème de garder un débit minimum en période d'étiage pour la biodiversité.
D'accord, très bien. Bon, on ne va pas avoir le temps de développer trop vos actions, mais où est-ce qu'on vous retrouve ? Comment on vous retrouve ? Facebook, site internet ? Explique-nous ça.
Tout.
Valérie, tout.
On est présent, on a une page présente sur Facebook, donc Kikuri.
Kikuri, voilà. Qui s'écrit ? Vas-y, dis-nous comment ça s'écrit, parce que...
Q-U-I-C-U-R-Y.
Un R ou deux R ? Un R.
Attends,
pour moi, je fais une faute. Bah, ouais. Q-U-I-C-U-R-Y, d'accord,
voilà,
Facebook, d'accord.
Et puis sinon, sur kikuri.org... notre site internet, vous pouvez vous abonner à une lettre d'information. On a une lettre d'information
D'accord.
à peu près mensuelle. À peu près mensuelle. Voilà, puis n'hésitez pas à nous rejoindre. On a besoin d'adhérents.
Bien sûr.
Plus on a d'adhérents, plus on est légitime.
Exactement.
En termes des actions.
Tout à fait.
Donc rejoignez-nous, vous pouvez adhérer via le site internet.
Très bien. Valérie, Bob, Alain, merci d'avoir bien voulu participer à cette émission. Donc votre association est un peu plus connue. J'espère que beaucoup de personnes vous rejoindront. Jean-François La Technique, merci.
Merci aussi.
Merci à vous.
À la rentrée.
Poker Menteur.
Calade.